Plus d'une centaine de personnes se sont retrouvées ce matin devant la gare d'Aigurande-Merlin pour réclamer la réouverture du tronçon Aigurande-Merlin-L'Accueil qui permettrait la remise en service de la ligne Ussel-Clermont-Ferrand. Pourquoi une mobilisation ce vendredi 19 mars devant la gare d'Aigurande-Merlin ? Philippe Brugère, vous êtes maire de Meymac et coordinateur du comité de vigilance sur la ligne Ussel-Tulle.
Oui, cette mobilisation a été importante parce que on a un tronçon de ligne qui est fermé depuis 2014 et qui bloque toute la chaîne entre sur la ligne Bordeaux-Lyon. Et on voit qu'il y en a une qui est en train de se renforcer, on va dire, côté Limoges-Montluçon. Mais pour la Haute-Corrèze, il est essentiel que ce tronçon de ligne puisse réouvrir de manière à ce qu'on puisse se tourner aussi bien vers l'Auvergne-Rhône-Alpes que vers la Nouvelle-Aquitaine.
Loïc Coudert, vous êtes secrétaire général du secteur fédéral CGT de la région de Limoges. La gare d'Aigurande-Merlin est fermée depuis 2014. Pour quelle raison ?
La gare d'Aigurande est fermée puisque le tronçon de ligne est fermé. Donc la région ayant fait le choix de limiter les circulations sur l'axe Bordeaux-Ussel à la gare d'Ussel justement, donc la gare n'est plus desservie. C'est un choix qui aujourd'hui péjore ce territoire, mais qui est la conséquence en fait du désengagement de l'État de ne pas exploiter la ligne sur l'ensemble de son tronçon. Et donc, il avait été fait le choix de fermer les portes de cette gare.
Mais alors, pourquoi fermer ce tronçon ? C'est parce qu'il est hors d'usage ?
Ce tronçon nécessitait déjà à l'époque des investissements pour réhabiliter le rail, pour faire circuler des trains à une certaine vitesse. Les régions à qui on a donné la responsabilité de financer le réseau et que l'État n'a pas voulu assumer derrière la responsabilité donc de financer, les régions n'ont pas réussi à s'entendre sur la question du financement et donc, dû au désengagement de l'État, personne n'a pris son courage et a voulu financer, et donc la ligne est restée fermée.
Alors vous parlez de la région Nouvelle-Aquitaine, région Auvergne-Rhône-Alpes, vous parlez aussi de l'État, la SNCF est aussi un des acteurs de ce dossier. Pour qu'on comprenne bien les enjeux, qui a la responsabilité de quoi ?
Alors là-dessus, il ne faut pas se tromper dans le débat. Effectivement, la SNCF est en responsabilité d'exploiter le système ferroviaire français pour le moment. L'ouverture à la concurrence s'est engagée sur le fret, il va s'engager sur le voyageur. Mais effectivement, la SNCF est toujours une entreprise publique à capitaux publics. Et donc, dans son conseil d'administration, siège l'État qui donne les directives à cette entreprise-là. Donc effectivement, la SNCF n'est pas le seul responsable. Effectivement, dans ses choix stratégiques, elle a ses responsabilités, mais effectivement, l'État est le donneur d'ordre. Et donc, nous pouvons considérer que la SNCF n'est qu'un prestataire de service. Donc elle obéit aux règles que lui imposent les gouvernements successifs et qui ont fait aujourd'hui que le choix a été imposé de fermer le tronçon Bordeaux-Lyon pour quelques kilomètres entre Ussel et L'Accueil. Une vingtaine de kilomètres, un peu plus d'un kilomètre, qui nécessite des travaux, avec une partie sur la région Nouvelle-Aquitaine et l'autre sur la région Rhône-Alpes.
On peut signaler toutefois qu'il y a une partie des travaux qui avaient été faits entre Ussel et la gare d'Aigurande-Merlin, où là la voie est en bon état. C'est uniquement le tronçon entre Aigurande-Merlin et L'Accueil qui a besoin d'être fortement rénové. Et si, historiquement, on peut remonter déjà avant la réforme territoriale, il y avait un petit peu cette mésentente entre la région Limousine et la région Auvergne, qui se traduit aujourd'hui de la même manière par une mésentente entre la région Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, puisque la région Nouvelle-Aquitaine a fait les investissements, voilà, c'est fait. Mais par contre, ça bloque du côté Auvergne-Rhône-Alpes et on espère que le président de région va comprendre toute l'importance, en tout cas pour nous, même si nous n'appartenons pas à sa région. Il faut que le président Wauquiez comprenne l'importance pour nous. C'est aussi important pour lui parce que de toute façon, les flux vont dans les deux sens.
Effectivement, on voit que la stratégie a une importance dans l'aménagement du territoire. Effectivement, comme le rappelle M. le maire, entre Ussel et l'accueil, les travaux ont été faits pour maintenir le réseau à un niveau exploitable, parce que la SNCF et la région Limousin avaient acté la nécessité d'investir sur ces parties-là. De l'autre côté, déjà à l'époque, la région Auvergne, dans une autre stratégie, n'avait pas fait le choix d'entretenir correctement son réseau. Et donc, c'est pour ces raisons-là, on a un exemple particulier qui nous fait la démonstration que si la stratégie, elle n'est pas globale, elle n'est pas nationale, on se retrouve avec des stratégies différentes par territoire et qui font qu'on se retrouve avec des fermetures de lignes.
C'est les effets délétères de la réforme territoriale.
C'est quoi les enjeux de la réouverture d'une ligne Ussel-Clermont-Ferrand qui passerait par la gare des Gurlandes-Merlin? C'est des enjeux qui dépassent de loin la simple réouverture d'une gare.
Et bien sûr, il y a les enjeux économiques évidents et les enjeux de développement territorial, d'attractivité territoriale. C'est-à-dire, si on considère les flux des personnes déjà, comme je le rappelais, il y a beaucoup d'établissements scolaires, pour ne parler que d'eux, qui dépendent bien de ces liaisons. Hein. Plus de 30% des étudiants, que ce soit à Meymac, à Égletton, à Neuvic, c'est-à-dire qu'il y a des établissements qui ont des recrutements régionaux, voire nationaux, eh bien, ça mettrait en péril leur existence. Et puis, il y a le développement du tourisme aussi. Hein. Si on considère le massif du Sancy, la réouverture de cette ligne permettrait d'irriguer de nouveau toutes les chaînes thermales, les sports d'hiver, etc., tout ce qui se passe autour du Mont d'Or et de la Bourboule. Sans compter après au niveau du fret, si on considère l'accueil par exemple avec l'entreprise qui met de l'eau en bouteille et qui pourrait profiter de cette ligne ferroviaire et nous-mêmes en Haute-Corrèze pour tout ce qui est les entreprises autour du bois et la commercialisation du bois puisque nous sommes une grosse réserve de bois sur le massif central. Voilà. Donc tous ces enjeux, ceux-là et d'autres, hein, sont essentiels vraiment pour la Haute-Corrèze parce qu'on voit bien que une fois qu'on est à Tulle, Brive, on est tourné vers Bordeaux, mais nous, tout ce qui est au-delà de Tulle, on est aussi tourné un peu vers Clermont, et donc il est évident que pour nous, en local, c'est un enjeu essentiel. Et puis, au-delà de ça, la liaison ferroviaire entre les deux capitales de région, que ce soit Nouvelle-Aquitaine ou région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, ça a tout son sens, puisque ça fait partie des rares liaisons comme ça transversales que l'on connaît sur le territoire national.
Qu'est-ce qui empêche concrètement la remise en service du tronçon entre la gare des Gurlandes-Merlin et l'accueil? Où ça coince?
C'est une stratégie, c'est une planification. Réellement, c'est une volonté politique de vouloir redynamiser nos territoires. Effectivement, on peut lier tout ça avec la question économique et la question sociale. Dans une période que l'on traverse de crise sanitaire, où on repense, certains repensent en tous les cas leur vision sociétale, travailler au dynamisme, au redynamisme de nos territoires ruraux doit passer par son maillage et sa capillarisation de son territoire, notamment au travers des infrastructures ferroviaires. Et en cela, on ne parle pas de construire une infrastructure, on demande juste de maintenir ou de relancer une infrastructure qui existe déjà. On a un territoire français qui était très maillé, il y a eu déjà des milliers de kilomètres qui ont été détruits de lignes ferroviaires, mais aujourd'hui on met en avant la question des mobilités pour le bien de tous, et quand on parle du bien de tous, c'est le bien économique aussi et social. Il n'y a pas que la question environnementale. Il est nécessaire que ces lignes réouvrent et qu'on puisse offrir des mobilités, qu'elles soient pour les personnes et pour les marchandises. Parce que, effectivement, on peut imaginer, dans une stratégie beaucoup plus globale, on pourrait imaginer que nos territoires puissent revivre. Et au travers de cette vitalisation des territoires, c'est nos entreprises qui vont revivre aussi. Donc, qui dit plus d'entreprises, plus de salariés, plus de personnes qui participent à la vie sociale de nos communes, et ainsi de suite. Donc, c'est une dynamique qu'il faut inverser, c'est une vision politique différente. Et effectivement, aujourd'hui, on est confronté entre les effets d'annonce et les positions politiques et les choix qui sont faits au travers des lois qui nous sont imposées par ce gouvernement, en continuité de ce qui a pu être fait depuis une trentaine d'années avec l'abandon de la ruralité, malheureusement. Mais On espère et on a une vision aujourd'hui qui évolue, une vision politique, mais effectivement, c'est en travaillant ces initiatives comme aujourd'hui, où on met en responsabilité et les politiques, mais aussi les citoyens, en leur disant qu'il y a une nécessité à s'impliquer dans ce débat-là, qu'on va réussir à, certainement à inverser les choix qui nous sont imposés.
Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que il y a eu un abandon de la ruralité depuis de nombreuses années et on s'aperçoit que la politique d'aménagement du territoire a complètement disparu également. Et à côté de ça, on a l'exemple d'autres pays. Hein, je cite, on pourrait parler de la Suisse, mais surtout de l'Allemagne, du Japon, des grands pays développés qui, depuis quelques années, ont compris l'importance du ferroviaire et donc ont réouvert des gares, ont réinvesti les lignes, ont renforcé leurs liaisons. Donc il faut que nous aussi on s'engage dans ce mouvement parce que c'est vertueux à plusieurs points de vue. Tout d'abord au niveau sécuritaire, il est évident que les trains sur les rails sont beaucoup plus sécuritaires que des camions sur les routes ou des voitures sur les routes. Et puis aussi, c'est aujourd'hui, on en comprend l'importance, tout le monde la saisit sans avoir besoin d'être un militant écologiste. On comprend qu'un train pollue beaucoup moins que des dizaines de camions et rend le même service. Et d'autant plus que là aussi, il y a des avancées technologiques qui font que ça va renforcer ce mouvement, puisqu'on commence à parler des trains à hydrogène, mais bon, il y a plein d'autres sujets qui permettront demain d'être encore moins polluants. Donc ça ne fait que renforcer cet aspect.
La mobilisation pour la réouverture de la ligne Ussel-Clermont-Ferrand ne date pas d'aujourd'hui. En 2017, déjà, une motion adoptée par Haute-Corrèze Communauté réclamait la réouverture de cette liaison entre Ussel et Clermont-Ferrand. En juin 2018, à l'occasion d'un rassemblement en gare d'Ussel, le responsable CGT Cheminots de Brive avait symboliquement cassé le butoir posé sur la ligne Ussel-Clermont-Ferrand. Si on prend un peu de recul, des inquiétudes pèsent également sur la ligne Tulle-Ussel via Meymac, des inquiétudes également sur la ligne Limoges Ussel. La Haute-Corrèze est-elle une des grandes perdantes de ce qu'on appelait auparavant l'aménagement du territoire? Et vous arrive-t-il d'avoir l'impression d'être des Don Quichotte de ce qu'on appelle, ou de ce que les géographes appelaient la diagonale du vide et qu'on appelle aujourd'hui avec pudeur la diagonale des faibles densités?
La question est bonne et je pense que la réponse est la référence à Don Quichotte. Effectivement, nous nous battons contre des moulins à vent. Parce qu'il y en a beaucoup qui brassent, mais on n'avance pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup qui font. Donc effectivement, nous on fait, on essaye de porter le débat, et on est au cœur de plusieurs lignes qui sont en difficulté, qui sont en détresse, parce qu'elles ne font pas la priorité d'un plus grand nombre. Ça a été dit ce matin lors des déclarations, on ne représente qu'une faible partie de la population, une faible partie de l'économie, et dans le système libéral qui nous a imposé, effectivement, on ne compte pas beaucoup pour certains. Et donc, les priorités ne sont pas axées vers notre territoire. Et bien, c'est tout cela, justement, qu'il faut qu'on arrive à faire inverser dans cette balance. Et on va continuer à se battre et à lutter dans ce sens-là. Nous, en tant qu'organisation syndicale, aux côtés des élus, aux côtés des citoyens, pour faire peser le débat, mais à sa juste hauteur, avec les éléments concrets qui nécessite l'exploitation du système ferroviaire notamment, et les conséquences qu'on pourrait en mesurer si on redynamisait cette activité. Donc effectivement, Don Quichotte, c'est une réalité, les moulins à vent, c'en est une autre aussi.
Oui, c'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de vent, oui. On peut remercier à cet égard la mobilisation des syndicats cheminots qui nous ont permis de mieux comprendre les enjeux et ce qui se tramait, parce que il faut bien avouer que très souvent l'État avance masqué. Et pour décrypter un petit peu à long terme, à moyen terme, long terme, leur politique, il faut être un spécialiste de ces questions. Et à cet égard, les syndicats nous éclairent. Ce que je souhaitais peut-être dire en conclusion aussi, c'est que dans le domaine des mobilités, mais comme dans d'autres domaines, on pourrait citer les services publics, dans leur ensemble, on pourrait citer le système médical, etc., les territoires ruraux ont été largement abandonnés et ont fait les frais depuis des dizaines d'années, depuis 20 ans, en gros, 30 ans, des politiques publiques. Je crois quand même qu'avec le combat que nous menons à travers ces comités de vigilance citoyens, mais aussi à travers ma casquette de représentant de l'Association des maires ruraux de France, où là, on sort des études qui sont très éclairantes sur tous ces sujets, eh bien, on espère mobiliser, on l'a vu ce matin, de plus en plus d'élus. On a quand même une prise de conscience à leur niveau, et derrière les élus, tous les citoyens, de manière à ce qu'on puisse réinvestir nos territoires ruraux qui, pour moi, sont l'avenir. Quelqu'un le rappelait ce matin, c'est pas possible de continuer à concentrer 20% de la population, 80% pardon, de la population sur 20% du territoire, surtout avec les crises sanitaires qu'on voit aujourd'hui et tout ce que ça peut avoir de néfaste et de négatif. Donc l'avenir, c'est les territoires ruraux, mais il faut encore que on s'empare de notre avenir et on se mobilise pour assurer celui-ci.
Également, j'ajouterais que cette initiative a déjà des suites et nous appelons à l'ensemble de nos concitoyens à participer à la prochaine action qui va avoir lieu le 29 mars à Émoutiers, où un rassemblement sera prévu à 13h45 devant la gare, avec la participation des élus, là aussi, du comité de vigilance, des citoyens, des associations d'usagers. Donc là aussi, encore une fois, il faut qu'on fasse la démonstration que nous sommes tous mobilisés pour la question des transports ferroviaires et la défense des services publics. Le sujet principal, ce sera Limoges-Ussel, parce qu'on centralise des actions sur des lignes, mais c'est le sujet global du maintien des lignes sur nos territoires ruraux qui est dominant.